les cinq livres qu'on appelle les livres de la Torah. C'était l'Exode, j'ai perdu la mémoire, l'Exode, le Deutéronome, la mémoire fragile. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, puis le Deutéronome. On appelait ça le Pentateuque, parce que penta en grec, ça veut dire cinq. Alors le Pentateuque, c'est la première partie de l'Ancien Testament, et c'est ce que les Juifs appelaient la Torah, parce que ça comportait, encore une fois, l'énumération des commandements de Dieu, mais avec un paquet d'explications et de détails qui vont encore s'ajouter à d'autres que le reste de l'Ancien Testament va comporter comme façon de commenter la parole de Dieu. Tellement que les Juifs avaient une espèce de recueil dans lequel on leur donnait la Torah, mais en même temps, la façon de l'expliquer. Dans ce recueil-là, croyez-le ou non, il y avait un paquet de précisions très, très tantillonnes. J'y reviendrai d'ailleurs après la deuxième lecture. De sorte qu'ils étaient un peu comme ensevelis sous des commandements divers qui étaient parfois très loin du commandement initial, mais on avait ajouté ça, supposément pour aider à l'observance de la loi, mais qui, en pratique, détournait bien souvent de l'essentiel. Au lieu d'assimiler la loi, de la porter dans son cœur, puis de se demander à soi-même qu'est-ce que ça me demande dans le concret, on était comme enseveli dans un paquet de pratiques qui étaient terriblement distrayantes. Alors donc, Jérémie est né 650 ans avant le Christ. C'était à une époque où tout allait mal pour le peuple juif. Il était même tombé sous la botte de la Babylonie. Ce qu'on appelle la Babylonie, c'était une puissance assez importante dans le temps, comme l'Empire romain le sera plus tard. La Babylonie était située à peu près où se trouve actuellement l'Irak. Et c'était devenu une puissance importante. Elle avait envahi la Palestine, la Judée, s'était emparé de Jérusalem, avait détruit le temple de Jérusalem bâti après la libération de l'Égypte, sous la direction de Moïse. Les Juifs étaient très fiers de leur temple. On avait complètement détruit ce temple. C'est dire que le peuple juif était dans un état de servitude. Alors Jérémie leur dit, « Mais pourquoi faire que vous en êtes rendus là? C'est parce que vous avez mal observé la loi. C'est parce que vous n'avez pas été fidèle à la loi de Moïse. » Et en général, Jérémie, il est sévère. Et puis, il n'est pas très gai. D'ailleurs, on a inventé un mot en français, « Jérémiade ». Vous avez entendu ça déjà, là? Ben, ce mot-là, là, c'est Jérémie qui nous a donné ça. Hein? Parce que Jérémie, on dirait dans notre langage québécois, c'est un lamenteux. Il est toujours un peu sombre dans ses affaires. Et puis, il lave la tête de son monde. Mais c'est pas mal toujours négatif. Ça allait mal. Alors, est-ce qu'il veut, il était influencé par ça. Mais vous avez remarqué que le passage qu'on a lu, lui, est rempli d'espérance. C'est qu'après leur avoir fait comprendre comment ils avaient décliné par leur faute, il leur dit, « Bon, le Seigneur est tellement bon qu'il va vous pardonner tout ça. Il va encore reprendre une alliance avec vous, l'alliance qu'il avait faite là avec grâce à Moïse, quand vous êtes sortis d'Égypte, puis que vous avez retrouvé la terre promise. Il va encore accepter d'en faire une nouvelle, mais cette fois-ci, là, il va vous dire, « La loi de Moïse, mettez-la donc dans votre cœur, pour que ça change votre cœur. » Là, ça va tout changer. C'est le contenu de cette première lecture et qui va être complété par deux autres qu'on va entendre. La deuxième lecture, elle est tirée du Deutéronome. Le Deutéronome est antérieur au livre de Jérémie. Jérémie a vécu des années 650 avant le Christ, alors que le Deutéronome est un livre qui remonte à plus de 1000 ans avant le Christ. Mais encore là, si j'ai choisi ce texte-là, c'est pour montrer que dès le départ, on avait dit aux Juifs que cette loi, ils devaient la porter dans leur cœur, puis qu'ils ne devaient pas essayer d'ajouter un paquet d'affaires qui détournait de l'essentiel. C'est étrange, hein, comme on peut oublier parfois, lorsqu'on n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Vous allez écouter ça, puis vous allez voir comment le Deutéronome mettait en garde contre ce qui est arrivé par la suite et qui a amené le déclin du peuple juif. On écoute Deutéronome, à gauche sur votre feuille, écrit en meilleur caractère, là, Deutéronome 4, 1 à 8. À Dieu. Alors, je vous le disais, les 10 commandements de Dieu, c'était la base de la loi juive depuis Moïse. On vient de l'entendre là, Moïse qui donne la loi de Dieu. Vous vous souvenez là, il avait reçu des tables de la loi et puis les gens attendaient au bas de la montagne, là, puis ils savaient que Moïse était en conversation avec le Seigneur. Il est descendu avec les tables de la loi. Et puis, ce sont les 10 commandements. Je vous les ai récités tout à l'heure sous forme de rimette, là, mais ma Bible était trop grosse pour que je l'apporte, là. Mais j'aurais pu vous lire les mêmes commandements, mais sous une forme plus prosaïque, là. Mais c'est exactement les 10 commandements. Jésus n'a pas aboli ces commandements. Je ne commenterai pas ça parce que c'est un prochain sujet qui s'en vient, là. Il n'a pas aboli. Il a perfectionné les commandements. Et on pourrait dire qu'au fond, le Christ a été l'instigateur d'une troisième alliance, dans laquelle il a dit, les commandements de Moïse de la première alliance, je touche pas à ça. C'est éternel, ça vaudra toujours. Mais je constate que vous avez ajouté un paquet d'affaires, puis des affaires inutiles, des affaires qui vous détournent de l'essentiel. Il va répéter ça très souvent au cours de sa prédication. Ça va lui valoir, évidemment, bien des oppositions. Et il va quand même continuer sans relâche à répéter ce qui était la base de son enseignement. Je suis mêlé un peu dans mes feuilles, là, je vais me retrouver. Alors, Jésus, donc, va rappeler continuellement les 10 commandements, mais il n'a pas laissé grand-chose pour son Église. Je vous assure que quand je lis le droit canon, là, je ne retrouve pas beaucoup d'évangiles là-dedans. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile. D'ailleurs, la dernière version du droit canon a tenu compte de ça davantage, et puis il y a plus de références quand même à l'Évangile, je dois dire ça. Hein. Mais ce qui est légal devient facilement légaliste, et si on donne trop d'importance à la façon de l'appliquer, on complique ça, et puis on se croit très bon quand on va jusqu'au bout de la légalisation et on finit par oublier ce qui est l'essentiel et qui est plus abordable au monde ordinaire. Je pense que ce que notre pape nous fait vivre à l'heure actuelle, c'est pas mal ça. Il nous ramène à l'essentiel et il nous montre comment il faut s'ouvrir et comment il est ouvert à toutes les bonnes volontés, à tout ce qui est le reflet de la volonté de Dieu dans les autres religions, dans les comportements des gens qui peuvent être loin de l'Église. Vous savez que les gens qui l'ont acclamé là, lors de son passage, que ce soit à Cuba, encore davantage aux États-Unis, c'est pas tous des catholiques. Et puis, c'est pas tous des pratiquants. Il y a là, je pense, une réponse à l'appel qu'il a lancé. Et on en est, je pense, là, dans notre Église, à revenir à l'essentiel et à graver les commandements dans notre cœur. L'Église a aussi ses commandements. On les apprenait par cœur. Ce qu'on appelait les commandements de l'Église dans le petit catéchisme, c'était le résumé du code de droit canonique. L'essentiel du code de droit canonique. Je vais vous les réciter encore, ça va vous rappeler. Les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement. Quand on parlait des fêtes, là, c'était des fêtes obligatoires. Il n'en reste plus beaucoup. La Toussaint, c'était une fête d'obligation. Chômée. L'Assomption, c'était une fête d'obligation. Chômée. Croyez-le ou non, en France, où ils sont sécularisés depuis 250 ans, eux autres ont encore la fête de l'Assomption. Chômée. Croyez-le ou non. Hein? L'Immaculée Conception, c'est chômé à l'hôpital à l'Université Laval, même si les étudiants ne savent pas ce que ça veut dire, l'Immaculée Conception. Mais c'est dans leur règlement, cela, là, hein, des vestiges de ça. Donc, les fêtes du sanctifiera qui te sont de commandement. Toujours les rimettes, ça compliqué un peu, mais enfin. Les dimanches, mais s'entendra, et les fêtes pareillement. Tous tes péchés confessera, à tout le moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement. Quatre temps, vigile, jeûnera, et le carême entièrement. Vendredi, chair ne mangera, ni jour défendu mêmement. Droits et dîmes tu paieras à l'Église fidèlement. Il n'y a pratiquement aucun de ces commandements-là qui est intact actuellement. Puis il n'y a pas de quoi se scandaliser. L'Église est une institution qui a des règles, mais de même que le code de droit canonique, le code de droit civil s'enrichit de lois qui sont votées, que d'autres deviennent désuètes. Mais c'est la même chose pour le code de droit canonique. On a eu une nouvelle édition, là, hein, il n'y a pas tellement longtemps, alors qu'on était sur le code de 1917 depuis très, très longtemps. Mais c'est dans les années 80 qu'il y a eu une nouvelle édition. Si je les prends un après l'autre, les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement, ben, il y en a plusieurs qui ne sont plus commandées. Les dimanches, mais s'entendra et les fêtes pareillement. Ça, c'est intact. Ça ne veut pas dire que c'est observé. Ça ne veut pas dire que c'est négligeable non plus. Mais ça, c'est intact. Tous tes péchés confessera à tout le moins une fois là. C'est le précepte pascal avec ce qui suit là. Ton Créateur te recevra au moins à part humblement. Ce qui était commandé, c'était une communion au moins une fois par année. Mais tout est péché, on nous disait, si vous avez des péchés graves, vous n'êtes pas obligé de vous confesser une fois l'an. Mais Dieu sait si on insistait sur l'obligation pratiquement d'aller à confesse avant de communier. Mais il reste que, même si c'était ça qu'on enseignait, c'est bon de se rappeler quel était le commandement lui-même. Quatre temps, vigile, jeûnera et le carême entièrement. Ça, c'est supprimé. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas recommandable. Le jeûne demeure recommandable. Le jeûne était pratiqué par les Juifs parce que l'Ancien Testament, un peu comme le Coran pour les musulmans, était à la fois un code civil et religieux. Et puis, il y avait un tas d'observances qui étaient recommandées pour des questions d'hygiène, pour des questions de santé. Maintenant, c'est les médecins qui commandent les diètes, hein? Mais oui. Dans le temps, c'est l'Église qui nous le rappelait avec son commandement. On a dit, ils sont assez grands maintenant pour être capables de décider ça eux-mêmes, là. Je ne sais pas si on est si grand que ça, hein, si mature que ça. Hein. Bon, n'empêche que c'est tombé, ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire quatre temps, c'est-à-dire quatre fois par année, là, hein, il y avait des jours de jeûne, et puis il y avait les rogations deux fois par année, qui amplifiaient encore les quatre temps. Vendredi, chair ne mangera, ni jour défendu mêmement. Alors, c'était l'abstinence qui a sauté aussi. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est défendu. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça donne? Moi, là, les poissons, j'aime ça. Le poisson, j'aime ça. Puis quand je vais au restaurant, je prends du poisson. Mais dans le temps, là, quand on était réduit là à l'anguille, et puis ouais, c'était pas fameux, hein, c'était pas fameux le poisson. Hein. Encore là, ça n'était plus pertinent. Hein. Alors on a dit, on va laisser ça au bon jugement des gens. Hein. Droits et dîmes tu paieras à l'Église fidèlement. Ça existe encore, mais de façon tellement variée Il y a des places que la dîme était remplacée par la capitation. Il y a eu un tas d'affaires, là, tu sais, selon les paroisses et tout, là. Le fond reste vrai. Tu dois aider ton Église. Tu en fais partie. L'Église, c'est toi. Alors, de même que tu te finances, tu dois financer ton Église. Mais la forme n'est pas aussi précise que ce que disait le commandement. Vous voyez que ce qui n'est pas la loi fondamentale est appelé à évoluer. Et la loi fondamentale, si on ne la met pas dans son cœur et qu'on se laisse habiter et écraser par les formes d'application, là, ça devient une lourdeur plutôt qu'un adjudant. C'est ce que le Christ va nous dire dans la parole de Dieu, la dernière lecture qu'on va entendre, et qui a été la lecture évangélique du 22e dimanche, qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps. C'est tiré de Saint Marc, chapitre 7, des passages des versets 1 à 23. Ça, c'est un texte extraordinaire. La question qui était posée à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent les repas sans s'être lavé les mains. Bon, moi, je me lave les mains habituellement avant le repas, là. Mais dans mon esprit, ça n'a aucune portée rituel, alors que chez les Juifs, ça avait une portée rituelle. Je vous le disais, l'Ancien Testament était un code de loi qui allait dans les détails. Pas ce que Moïse avait demandé, là, mais par la suite. On avait ajouté un paquet d'affaires. et puis savaient même dévier. Non seulement on leur disait « lavez-vous les mains pour des questions d'hygiène », mais on allait jusqu'à dire « quand vous vous lavez les mains, vous vous purifiez, parce que vous avez pu toucher à des gens qui étaient des païens, vous avez touché à des objets fabriqués par des païens, ça, ça vous rend impur. » Ça allait jusque-là. Jésus va dire, ben voyons donc, rappelez-vous la Cananéenne là, hein, qui avait touché Jésus, et puis là, les gens disaient, qu'est-ce qu'elle a fait là? C'est une païenne, ça, là. Hein. Puis Jésus n'a pas l'air à... C'était ancré de ça, dans leur mentalité. Alors Jésus avait à lutter contre ça, d'autant plus que des pharisiens, qui étaient des intégristes du temps, un peu comme les intégristes musulmans maintenant, qui voudraient qu'on applique la charia et qui obligent les femmes à se couvrir. Vous avez remarqué qu'ils sont très mal pris avec ça, les pauvres musulmans. Les imams, là, ils ne veulent pas se prononcer là-dessus, parce qu'il y en a des imams qui sont radicaux, puis il y en a qui sont moins, puis qu'il y en a qui ne sont pas du tout. Ils ne s'entendent pas entre eux. Ils n'ont pas la chance d'avoir, comme nous, une autorité, là, qui est celle du pape, partagée par des évêques. Ils sont pas capables de cette solidarité-là, si bien qu'il peut arriver à peu près n'importe quoi, y compris d'État islamique, qu'il n'y a personne pour contrôler ça. Capable de le faire. Nous avons cette chance-là, et nous avons la chance d'avoir un pape, justement, qui, ayant été très près du monde, est capable de rendre la foi chrétienne là, sympathique aux gens, et la démêler de ce qui a pu l'encombrer. Parce qu'il y a de ça chez nous aussi. Il y avait de l'encombrement dans ce qu'on nous apprenait, dans les accents qu'on mettait. Et puis, ben, on paye pour ça un peu aujourd'hui. Moi, quand je rencontre des gens, là, très, très rigoristes, puis qui disent, vous autres, les évêques, vous avez tout lâché, puis les prêtres, c'est pareil. Bon, il est possible qu'on soit parfois, là, un petit peu lâche, un peu, dans nos perspectives et tout, là. Hein. Mais, mon Dieu, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on n'a pas réussi à faire passer le message évangélique dans des termes que le monde comprend et en les adaptant à ce qu'il y a de bon, d'acceptable dans l'évolution. Il y a du bon dans l'évolution. Je prends rien qu'un exemple, là. Nous n'avons plus le contrôle confessionnel des écoles. J'estime qu'on a perdu, même au plan humain, parce que ça n'a pas été remplacé tellement. Mais en soi, c'est pas anormal que l'État dise désormais l'école va être un lieu non confessionnel parce qu'il accueille des gens de toute religion. On va essayer de parler d'éthique, de culture religieuse pour informer et tout, là, mais il faut avouer que c'est encore assez... Je vais aller bientôt dans une école secondaire de Sainte-Foy, là, pour leur donner un cours sur le christianisme. Chaque année, je suis désolé de voir leur ignorance profonde de tout ce qui est le religieux. Mais par ailleurs, de leur disposition d'accueil. Ils sont accueillants, ils sont gentils, ils m'accueillent très bien, ils écoutent très bien. Leurs questions démontrent leur ignorance profonde. Parfois, au contraire, pour l'un ou l'autre, élevés dans une famille bien chrétienne, qui ont des questions surprenantes, les autres leur regardent en disant « Hein? Qu'est-ce qu'il dit là, lui-là? Là, hein? » Ça leur passe par-dessus la tête complètement. C'est notre monde, ça, actuel. Hein? Et notre défi, c'est de présenter l'Évangile, désencombrer de ce qui pouvait être rébarbatif et de ce qui était un peu l'apanage en même temps de l'État civil qui était pogné avec tout ça, puis on ne pouvait pas distinguer là, qu'est-ce qui relevait des deux. Là. On est encore un peu, on patauge encore un peu dans tout ça. Là, hein. Mais on fait des progrès. Et puis, il y a des choses très positives. C'est d'autant plus important que la loi soit dans notre cœur. C'est pas ce qui vient de l'extérieur, est-il dit, là, dans ce qu'on vient d'entendre, qui souille l'intérieur. C'est ce qui vient du cœur qui peut être souillé. Ce qui vient de l'extérieur, on peut le prendre ou pas le prendre. Qu'on mange du cochon ou qu'on mange du bœuf, c'est pas ça qui va souiller. Respectons ceux pour qui le cochon est défendu. C'est pas essentiel. Mais ça peut être une pratique. Mais à condition que on ne fasse pas de ce qui est marginal l'essentiel. C'est vrai pour nous. C'est la grande leçon qui se dégage de ce qu'on vient d'entendre. Ce qui était grave et que Jésus dénonçait, c'est qu'on était passé de pratiques hygiéniques, de pratiques de politesse, à des obligations qui allaient bien trop loin. Et alors, on en était rendu à plus savoir qu'est-ce qu'on pouvait manger. Et puis, on devait se purifier tout le temps. Le sang, dès qu'on saignait, il fallait qu'on se lave et puis qu'on aille se présenter au prêtre du temps pour se faire purifier, parce que le sang était impur. On avait compliqué la vie du monde terriblement. Jésus va dire, mettez donc ça de côté, revenez donc à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'il n'obligeait pas les apôtres à se laver les mains. Probablement qu'ils étaient assez éduqués pour le faire quand c'était nécessaire. Puis on le fait maintenant, pas parce que c'est commandé, parce que c'est dans un autre domaine, c'est l'hygiène, c'est important ça aussi. Mais maintenant, c'est la médecine qui remplace ce que le Code, ce que la Torah demandait. C'est les bonnes manières. C'est la législation d'ordre civil qui remplace ça. Mais lorsqu'on s'en tient à l'essentiel, on est capable de faire retomber ça sur l'ensemble de sa vie. Ça a aussi des répercussions sur ce que l'État a, par exemple, le droit de gérer. Quand j'entends là certains politiciens américains dire, moi, quand je vois l'Église, je m'attends à ce que mon curé, mon prêtre me parle de religion, pas qu'il me parle d'économie. Ben, c'est bien de valeur, mais ça fait au-delà d'un siècle que la doctrine sociale de l'Église s'est constituée. Et c'est l'application de l'Évangile à tes domaines essentiels. Il y a toujours une dimension morale. C'est pas parce que l'État va décréter désormais que l'avortement est permis, ce n'est pas pour ça que ça va devenir conforme à l'Évangile. C'est à nous à distinguer. L'État a le droit de légiférer. Quand il prend ses responsabilités, il y a des fois qu'il pourrait bénéficier d'être fidèle à l'héritage chrétien. S'il ne l'est pas, il reste quand même dans son droit. Mais ça ne nous enlève pas, nous, ce que notre conscience, éclairée par la foi et par la parole de Dieu, nous commande. Et quand c'est dans notre cœur, ça explose. Et c'est ce qui fait que de nos jours encore, on a des maisons Michel Sarrazin où on dit, nous autres, on va continuer à avoir des soins palliatifs. On va exhorter les gens à être près de leur monde. C'est l'isolement, c'est le fait de mourir seul, sans idéal, sans motivation, qui fait que on dit, ça vaut plus la peine, là. Il n'y a plus de fun à vivre, là. Ben, nous autres, quelles que soient les décisions qui vont être prises, c'est d'être des témoins de l'Évangile, de continuer à l'être, de ne pas maudire, de ne pas démoniser là, des gens qui ne pensent pas comme nous, continuer à les respecter, mais être capable de se tenir debout. Ce qui vient du cœur et qui déborde, qui rayonne, ça ne peut être que bénéfique. Merci de m'avoir écouté. Alors, cet après-midi, je reviendrai pour introduire un peu des ateliers. Alors, gardez votre feuille là, de la parole de Dieu, parce que ça partira de là, là, les questions que je vous conseillerai de débattre.
Excuse de vous avoir interrompu. C'est tellement bon, on aurait pu vous entendre encore longtemps.
Non, je... C'est pas pour rien que j'avais apporté ça, là, hein? Oui, je me suis aperçu que j'ai déposé. J'ai été passé largement.